Bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous m'entendez bien? Très bien, je n'ai pas besoin de changer les micros. Donc, comme l'a dit Olivier, je vais continuer dans le livre d'Amos. Et aujourd'hui, je vais parler du chapitre 8. Lors de ma dernière prédication sur le livre d'Amos, j'avais parlé du chapitre, la fin du chapitre 9, qui est la fin du livre. Mais comme c'était dans la période de l'Avent, c'était la fin du livre d'Amos, c'est un message d'espoir. Et c'est pour ça que j'avais parlé cette partie du chapitre 9. Mais aujourd'hui, je reviens sur le chapitre 8 pour continuer à vous présenter ce livre d'Amos. Donc aujourd'hui, comme vous voyez sur l'écran, j'ai choisi d'utiliser une expression les dés sont jetés pour exprimer un point de non-retour atteint par le peuple d'Israël et les conséquences qui en découlent. En m'écoutant aujourd'hui, vous pouvez vous dire, ou nous pouvons nous dire, que ce chapitre ne me concerne pas, car nous vivons dans une société différente. Et que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une alliance avec Dieu dont les termes sont différents. Eh bien, voyons si c'est vraiment le cas. Et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer des 10 premiers versets du chapitre 8 du livre d'Amos. Donc, je vous invite, donc, si vous n'y êtes pas encore, d'ouvrir vos Bibles dans le livre d'Amos au chapitre 8. Je vais les lire dans la version de la Bible du Semeur. Et voici ce que me fit voir le Seigneur, l'Éternel. Il y avait une corbeille remplie de fruits mûrs. Il me dit, que vois-tu, Amos? Et je lui répondis, je vois une corbeille remplie de fruits mûrs. Et l'Éternel me dit, la fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants dans le palais deviendront des lamentations. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Car les cadavres seront nombreux dans tous les lieux. On les jettera en silence. Écoutez donc ceci, vous qui volez les indigents et voulez en finir avec les pauvres du pays. Oui, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains? Nous diminuerons la mesure, nous en augmenterons le prix en truquant les balances. Et nous achèterons le pauvre pour de l'argent et l'indigent pour un morceau de pain. Nous vendons même jusqu'aux déchets du blé. L'Éternel l'a juré, aussi vrai que Jacob est orgueilleux, jamais je n'oublierai aucune de leurs œuvres. À cause de cela, le pays tremblera et tous ses habitants seront en deuil. Le pays se soulèvera dans sa totalité comme le Nil en crue. Il sera agité et puis s'affaissera comme le fleuve de l'Égypte. Oui, c'est bien, tu as mis la deuxième slide, merci. Dans ce message, je commencerai par commenter la vision d'Amos de la corbeille de fruits et le sens de ce symbole. Ensuite, je parlerai de la nature des péchés commis principalement par les puissants du peuple d'Israël. Et avant de voir comment Dieu manifeste sa colère et punit son peuple, je ferai une parenthèse sur les fruits venant du Saint-Esprit et ceux venant de la chair. Enfin, en conclusion, je reprendrai les points importants de ce message. Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, dans cette vision d'Amos, Dieu illustre les péchés d'Israël, des Israéliens grâce à une corbeille de fruits mûrs. Par cela, Dieu veut montrer à Amos et également indirectement au peuple d'Israël que leurs péchés sont arrivés à maturité. Pour analyser la comparaison entre le fruit et le péché, j'ai choisi de vous mettre sur cette diapo le cycle de vie d'un fruit. En effet, la première étape, c'est la naissance du fruit lors de la fécondation, à partir de la fleur. Puis le fruit est en croissance jusqu'à sa taille maximale. Et ensuite, il commence à changer de couleur pour mûrir. La dernière étape, c'est la sénescence ou la mort, qui se traduit par le pourrissement du fruit. Et quel est le cycle du péché? Si on compare, on poursuit cette comparaison entre le péché et le fruit. Comment en est-il? Eh bien, cela peut commencer par une idée, un désir, une envie, un sentiment que l'on peut ignorer ou réprimer ou analyser, sachant que c'est une mauvaise idée. Mais c'est un sentiment ou une envie qui peut nous conduire là où on sait qu'il ne faut pas y aller. Et la prochaine étape est de passer de l'idée à l'action. Et on sait qu'il suffit de répéter 3 fois ou 3 jours de suite la même action pour que cela devienne une mauvaise habitude. Puis ensuite, une possible addiction. Revenons au texte et voyons ce qui arrive aux pécheurs du peuple d'Israël, dans ce passage. Eh bien, pour savoir, je vais relire le verset 3. Si vous voulez revenir au verset 3 de ce chapitre. En ce jour-là, les chants dans le palais deviendront des lamentations. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Car les cadavres seront nombreux dans tous les lieux. On les jettera en silence. On voit que leur péché entraîne leur mort, le péché des Israéliens. Et que donc par son conséquent, il n'est plus possible de séparer le corps, leur corps, leur âme et leur esprit de leur péché. Et comme le fruit murmure, ces gens accusés par Dieu de crime meurent également. Il n'y a plus de rédemption possible pour eux. Il n'y a plus de rachat de leur péché possible. D'où l'image des jetés. Quand les déjetés, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Le destin va se dérouler et notre destin se déroule sans qu'on puisse rien y faire. Pour revenir à la vision des fruits trop mûrs, s'ajoute, comme vous le voyez dans ce passage, une atmosphère de deuil et de lamentation, avec l'arrêt de la musique, comme la lyre et le tambour, et également des chants, qui seront tout à fait déplacés en compagnie des cadavres qu'annonce Dieu par l'intermédiaire du prophète Amos. Je vais relire les versets 5 à 7 et nous allons pouvoir voir quels sont les péchés qu'Amos souligne dans ce passage. Donc les versets 5 à 7, c'est là où il détaille les péchés commis par le peuple d'Israël. Verset 5 commence par « Oui, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé ? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains ? Nous diminuerons la mesure, nous en augmenterons le prix en truquant les balances. Nous achèterons le pauvre, pour de l'argent et l'indigent pour un morceau de pain. Nous vendrons même jusqu'aux déchets du blé. L'Éternel l'a juré, aussi vrai que Jacob est orgueilleux, jamais je n'oublierai de leurs œuvres. » Donc sur cette diapo, j'ai commencé par lister la cupidité ou l'appât du gain. Ils le font en volant, en truquant les balances, en augmentant les prix. En deuxième, la convoitise, ou on peut dire aussi de manière plus simple, le désir extrême de posséder, notamment les pauvres. Ils achètent les pauvres. Et je termine cette liste par le péché d'orgueil, qui se traduit par la culture du soi, la surdimension de son ego et la négation de l'existence de Dieu. Donc, pour revenir à nous aujourd'hui, est-ce que les péchés du peuple d'Israël sont encore d'actualité aujourd'hui? L'appât du gain ou la cupidité des gens avec du pouvoir, que ce soit au sein des entreprises ou au gouvernement, il suffit de suivre un peu l'actualité pour se rendre compte que ce péché lié à la nature humaine est encore bien présent dans notre société. Passons maintenant à la convoitise, qui est un désir extrême de posséder. Est-ce que nous y sommes sensibles? Est-ce que la société de consommation dans laquelle nous vivons nous surexpose à ce péché Juste après cette période de Noël, nous pouvons regarder derrière nous et nous demander, ai-je exagéré en achetant trop de cadeaux pour les autres et même pour moi? Quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai exagéré? Bien sûr que les raisons sont multiples et que la convoitise n'est peut-être pas la raison principale qui vous vient à l'esprit pour l'achat compulsif de cadeaux. Mais en creusant un peu dans nos motivations, nous allons peut-être nous rendre compte qu'il arrive que nous transférons notre désir de posséder aux autres, comme à nos enfants, par exemple. Le dernier péché cité ici, c'est l'orgueil. Et si je me permets de classer les péchés par ordre d'importance, celui-là prend la première place, car Dieu se met en colère et jure contre le peuple d'Israël, comme on le voit dans le verset 7. Nous avons tous commis un péché d'orgueil en surestimant notre valeur, en se croyant meilleur que l'autre, en cherchant à avoir raison à tout prix, en favorisant la dispute ou même la querelle plutôt que l'écoute et la compréhension d'autrui. Selon le verset 7, l'orgueil n'est pas seulement une histoire d'opinion ou de valeur relative de soi par rapport à autrui, mais cela se traduit dans les actes, dans les œuvres qu'a réalisé le peuple d'Israël. Et comme c'est rappelé dans ce chapitre, ces œuvres sont une abomination aux yeux de Dieu. Et lors de mes dévotions du matin, je relisais les proverbes et je suis tombé sur le verset 10 du proverbe 13 qui dit cela. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Sur la diapo suivante, s'il te plaît. Donc maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse qui va au-delà du passage du livre d'Amos, mais qui semble tout de même appropriée en ce début d'année. Beaucoup d'entre nous prenons de nouvelles résolutions ou se fixons de nouveaux objectifs pour donner un nouveau souffle à notre vie de chrétien. Eh bien, il est important de différencier les mauvais fruits des bons fruits ou les œuvres provenant de l'inspiration du Saint-Esprit et celles venant de notre nature humaine liée au péché. Afin de nous aider à séparer les bons fruits des mauvais fruits, j'ai mis en opposition les fruits provenant du Saint-Esprit et ceux provenant de la chair, en partant du verset 22 du chapitre 5 de l'Épître aux Galates, que vous devez connaître bien. Donc, sur la gauche de l'écran, c'est les fruits qui viennent du Saint-Esprit. Sur la droite, c'est les mauvais fruits qui viennent de la chair. Et je les ai mis en opposition. La paix et la joie intérieure qui s'opposent à l'amertume et au ressentiment. La patience et la maîtrise de soi qui s'opposent à l'impatience et la colère. L'amabilité et la douceur qui s'opposent à l'âpreté, la rudesse, la brutalité. La bonté et la bienveillance qui s'oppose à la méchanceté et à l'atrocité. La fidélité et la loyauté qui s'opposent à l'infidélité et à l'intropie. Et j'ai rajouté quelque chose qui n'est pas dans ce verset, dans le verset de Galates, mais qui me semblait important, l'édification de l'autre qui s'oppose à la moquerie et au dénigrement. Je suis toujours choqué par la moquerie, ça fait toujours rire, ça fait rire les gens. Mais en fait, c'est une mauvaise raison de rire. Et il y en a qui ne se rendent pas compte que la moquerie, ça blesse. Ça blesse. Et des moqueries répétées peuvent conduire à des troubles. Donc, même si la plupart d'entre nous sommes baptisés par l'eau et l'Esprit de Dieu, nous produisons à la fois des fruits de l'esprit et ceux de la chair. Par exemple, pour ma part, la patience et l'écoute de l'autre, comme mon épouse, ma fille, mes clients, demandent souvent un effort de concentration et pour repousser ses propres pensées, pour vraiment focaliser sur l'autre. Également, montrer de l'empathie, de la bienveillance à l'égard de l'autre ne me vient pas naturellement et requiert prière et préparation pour partager et comprendre la détresse et la souffrance de l'autre. Donc, Je voudrais avec vous aujourd'hui que vous preniez peut-être, je vais arrêter de parler, peut-être pendant 30 secondes, vous laisser réfléchir à ce qui est écrit sur cette diapo et peut-être voir ce qui vous correspond, sur quoi vous pouvez travailler, ce pourquoi déjà vous avez atteint la maturité en Christ. Donc je vais arrêter de parler pendant une trentaine de secondes. Bon, bien, je vais continuer avec la diapo suivante, s'il te plaît. Je vais reprendre le texte, le suivi du texte, et parler de la colère et la sentence de Dieu. On peut souligner les changements qui vont s'opérer aussi bien pour le peuple lui-même que pour son environnement. Dans le verset 3, comme je l'ai déjà dit, on voit les champs qui deviendront des lamentations. Et aussi les cadavres seront nombreux et seront jetés en silence. Et je vais relire les versets 8, 9 et 10 pour voir ce qui se passe autour d'eux, ce qui va se passer. À cause de cela, le pays tremblera et tous ses habitants seront en deuil. Le pays se soulèvera dans sa totalité comme le Nil en crue. Il sera agité et puis s'affaiblira comme le fleuve de l'Égypte. En ce jour-là, ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à l'heure de midi. Et en plein jour, je couvrirai la terre de ténèbres. Je changerai vos fêtes en jours de deuil et tous vos chants en amère lamentation. J'imposerai un habit de toile à sac à tous les habitants et leur ferai raser la tête. J'infligerai à ce pays une douleur aussi profonde que lorsqu'on perd un fils unique. Ce qui adviendra par la suite ne sera que jour de malheur. Nous voyons qu'au deuil viendront s'ajouter la confusion et la peur des survivants qui verront la terre trembler, qui verront le soleil laisser place aux ténèbres en plein milieu de journée. Il faudra cesser toute activité normale et modifier son apparence pour vivre le deuil en se rasant la tête, en portant des habits en toile de sac. Et cela sera imposé par Dieu. Et une fois en tenue de deuil, le peuple fera une expérience d'une douleur profonde, semblable à la perte d'un fils unique. Comme je l'ai dit au début de ce message, les dés sont jetés pour le peuple d'Israël de l'époque d'Amos. Dieu exprime sa colère en causant la mort d'un grand nombre de pécheurs au sein de ce peuple. Et cela ne va pas se faire de manière inaperçue, comme si Dieu faisait disparaître les pécheurs sans que personne ne le remarque. Non, il y aura les morts, les endeuillés, qui vont souffrir, et c'est toute une nation dont le destin va être bouleversé par la main de Dieu. Si tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. En conclusion, j'aimerais qu'on se pose deux questions qui se trouvent sur cette diapo. La première au sujet de l'image des déjetés, avec laquelle j'ai commencé. Cette question m'a conduit à repenser au salut de chacun, d'entre nous, sur les termes de la nouvelle alliance entre l'humanité et Dieu. Grâce à la mort de Jésus et à sa résurrection, quel que soit le chemin que nous suivons lors de notre vie, il nous sera possible, à n'importe quel âge, de répondre à l'appel de Dieu, de se baptiser et d'entrer dans son royaume. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont accepté de se convertir juste avant de mourir. Pour exemple, je veux citer juste l'histoire tragique d'un pompier qui est allé au World Trade Center le 11 septembre 2001 pour éteindre le feu de ses tours et qui s'est converti avant de mourir. Bien sûr, ceci nous ramène à la parabole des ouvriers qui reçoivent le même salaire quelle que soit l'heure de la journée à laquelle ils ont commencé à travailler. Pour répondre à la première question, je dis que c'est non. Les dés ne sont jetés pour aucun d'entre nous, ni pour nos contemporains qui cherchent la lumière et la vérité. Pour la deuxième question, sur la nature des fruits, pour nous qui sommes chrétiens, eh bien c'est à chacun de répondre à cette question dans la sincérité de son cœur et en intimité avec Dieu, le Père. Pour ma part, je sais que la prière, la louange, la lecture de la Bible, la communion avec les frères et sœurs en Christ m'aide à faire les bons choix et à porter les fruits de l'esprit, tout en sachant que je reste faible face au péché de la chair et que nous vivons dans la grâce, car Dieu nous voit par le truchement de son Fils Jésus-Christ. Je vais terminer en lisant le Proverbe 14, du verset 1 à 9, car la sagesse des Proverbes nous aide à devenir plus matures en Christ. Donc si vous voulez prendre le livre des Proverbes, le chapitre 14, et je vais lire les 9 premiers versets. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui se conduit avec droiture respecte l'Éternel, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. Car ses propres paroles, c'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil. Mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. Là où il n'y a pas de bœufs, les greniers restent vides, alors que leur vigueur assurerait des revenus abondants. Un témoin fidèle ne ment pas, qui profère des mensonges est un faux témoin. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe, alors que la connaissance est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. Réparer un tort, les insensés s'en moquent, mais les justes manifestent de la bonté. Je vais terminer avec une prière. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour les frères et sœurs qui sont rassemblés aujourd'hui dans cette église. Merci pour le livre d'Amos, pour ses enseignements. Merci pour la Bible. Merci pour le temps que tu me permets de consacrer à la préparation de ce message. Au nom de Jésus. Amen.